Je voudrais vous donner une petite instruction spirituelle. Ne vous attendez surtout pas à une grande conférence. Je ne suis pas conférencier. Et une petite instruction spirituelle qui, je l'espère, pourrait être utile pour nourrir vos âmes. Car nos âmes ont sans cesse besoin d'être nourries. Il faut exercer nos âmes, un peu comme un sportif exerce son corps pour devenir excellent dans sa discipline. Eh bien, il faut aussi que l'âme soit exercée, qu'elle soit nourrie, afin qu'elle vive de Dieu. Et vous êtes dans la vie active. En début d'année, on est toujours plein de bonnes résolutions. On a des objectifs, me semble-t-il, un peu comme dans la vie professionnelle. J'imagine, moi, enfin, je ne sais pas, je pense que ça doit se passer comme ça. Votre grand patron vous réunit, il réunit tout son staff et il vous dit, voilà, on doit atteindre cet objectif, croissance 2-3% ou 0-1%. Et vous, vous êtes chargé de pousser tout le monde pour atteindre l'objectif fixé par le patron. Eh bien, si nous menions avec le même zèle les affaires du ciel que celles de la terre, ça irait bien. Vous savez que Colbert, mourant, le grand ministre, a dit une chose fort belle. Il a dit, en parlant du roi qu'il avait très bien servi, Louis XIV, il a dit « Si j'avais fait pour Dieu le dixième de ce que j'ai fait pour lui, sous-entendu le roi Louis XIV, son maître, qu'il servait, je serais sauvé. » Voilà ce qu'il a dit quelques jours avant sa mort. Et c'est une belle réflexion. Que faisons-nous pour le bon Dieu? Quelle est la part que nous lui donnons? Il faut sans cesse revenir à ce fondamental-là, parce que c'est vital, c'est une histoire de salut. Et quand on cherche le salut, quel est l'enjeu? Eh bien, c'est de sauver notre peau, au sens spirituel du terme. Alors vous me direz, tout ça c'est bien beau, c'est sur ce constat-là que je partirai, mais nous, évidemment vous prêtres, vous ne pouvez pas faire autrement que de le dire, mais nous, nous sommes dans la vie active et on aimerait bien faire autrement, mais par nécessité, nous sommes dans cette vie-là et pour que le bon Dieu ait une place dans une journée, il faut vraiment se battre, c'est de l'ordre du combat spirituel. Et c'est vrai que la vie moderne très agitée laisse peu de place à la vie de prière, à la contemplation. Pourtant, notre vie vaut ce que vaut la part de contemplation que nous y mettons. Quel est le taux de contemplation que je laisse entrer dans mon existence quotidienne? Contemplation, c'est un mot qui fait peur. Alors, il ne faut pas en avoir peur, c'est simplement la vie de l'âme, mais la vie de l'âme quand elle est en contact avec Dieu. Et ce que cherche le chrétien, c'est cela. Si être chrétien, c'était adhérer à des grands principes, ce serait certes très important et essentiel, mais ça demeurerait encore très cérébral. Mais être chrétien, c'est aussi vivre de ce contact vivant avec notre Seigneur, qui nous a dit... Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Et on voit bien dans l'Évangile que Jésus consacre beaucoup, beaucoup de temps à ses amis, à ses proches, aux siens. Il leur donne du temps. Et nous, nous pouvons nous dire, eh bien, qu'est-ce que je donne comme temps au bon Dieu? Qu'est-ce que je lui ai donné aujourd'hui? Et vous remarquerez que notre journée a été parsemée, alors il y a peut-être des exceptions, très sainte parmi vous, parsemée de pas mal de refus. Et ce que je voudrais entrevoir avec vous ce soir, c'est que finalement, notre existence quotidienne si remplie, il ne faut pas la considérer comme une calamité, mais plutôt comme la volonté aimante de Dieu sur moi. Si ma journée d'aujourd'hui a été telle qu'elle, eh bien, c'était que c'était sa volonté. En revanche, elle est toujours une impasse quand c'est ma volonté à moi, parce que le propre de ma volonté, c'est qu'elle ne mesure pas plus de 2 mètres de haut, qu'elle a la vue très courte, et que finalement mon existence n'est réussie que lorsque je laisse entrer la volonté aimante de Dieu. Bref, tout ce que vous vivez, et ça c'est vraiment l'intuition d'un saint François de Sales comme d'une sainte Thérèse de Lisieux, tout ce que vous vivez, votre voisin de bureau qui comprend rien à rien, la cuisine que vous respirez 4 fois par jour, les réveils en sursaut, la prière familiale où aucun enfant ne se tient tranquille, tout cela parce que c'est notre état de vie, nous donne Dieu. Et la plupart du temps, nous le recevons contrarié, ce donné quotidien. On se dit, de toute façon, il faut bien que j'accepte, toute l'année va être comme ça. On est résigné, ou quelque peu durci, et on se dit, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Alors, ce que je voudrais que vous entrevoyiez en ce début d'année, c'est que le grand silence des contemplatifs, eh bien vous, vous pouvez le trouver dans le fracas quotidien. C'est-à-dire qu'il suffit d'un regard de foi sur tous les petits détails de votre vie quotidienne, sur lesquels, d'habitude, nous butons sérieusement. Ils valent vraiment la peine d'être vécus, et ils sont autant d'occasions de nous jeter en Dieu, de nous raccrocher à lui et de vivre en union avec lui. Dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 18, Jésus dit « Il faut toujours prier sans jamais se lasser ». Et Saint Paul reprend cette recommandation avec insistance dans ses épîtres aux Thessaloniciens et aux Éphésiens. Vivez dans la prière, priez en tout temps dans l'Esprit Saint. On se dit, oui, ça c'est bien joli, mais ça c'est encore du Saint Paul. Restez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes conditions, soyez dans l'action de grâce, encore du Saint Paul. Et même si c'est du Saint Paul, il faut bien se dire que tous les maîtres spirituels, depuis les origines, n'ont cessé d'inviter tout chrétien à prier sans cesse. Et cela soulève aussi une question, cette recommandation ne va-t-elle pas faire du chrétien un être plus ou moins absent, comme est absent celui qu'aucun souci n'habite, celui qu'aucune préoccupation ne hante? Il faut dire qu'au cours des âges, de nombreux saints ont témoigné être parvenus à un état de prière continuelle, même les gens très occupés. Et il faut se dire, ben, moi aussi je suis très occupé, mais finalement ma vie archi entassée et débordée pourrait être pour moi, si j'y étais un peu plus attentif, un moyen d'union permanente à Dieu, plutôt que quelque chose que j'accepte comme contraint et forcé. Alors je vous donne quelques petits moyens pratiques. Pensez à Dieu. Ça paraît tout bête. Pensez à Dieu. L'Écriture sainte nous dit se souvenir du Seigneur. Alors, vous pouvez le faire à partir des relations habituelles que vous entretenez avec lui, de confiance, de reconnaissance, de louange, de repentir, ou bien à partir de ce que vous savez de lui, sa grandeur, sa providence, sa tendresse. Et nous pouvons ce soir faire nôtre ces versets du psaume, comme les yeux des serviteurs vers la main de leur maître, comme les yeux d'une servante vers les mains de sa maîtresse, ainsi mes yeux sont vers vous, mon Dieu. Il s'agit donc ici de voir le monde avec le regard de Dieu, la dimension spirituelle des réalités humaines. Parfois, quand on voit des hordes informes en guenilles dans la rue, c'est quand même frappant de voir comme au cours des quelques dernières décennies, l'Europe entière a été mise en guenilles. Alors, de temps en temps, on est effaré, surtout quand on est en soutane. Et bien, il faut bien se dire que, malgré cela, le bon Dieu n'a jamais désespéré de l'humanité. Pourtant, nous, ça donnerait plutôt des crises d'urticaire. Lui, non. Notre Seigneur ne désespère jamais de nous. Alors donc, essayez de temps en temps de revenir à lui. Vous voyez, demain, vous fixez un objectif simple pour la journée de demain. Il faut que, au moins une fois dans la journée, je sois revenu à lui. Ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Petite résolution, immédiatement applicable. C'est pas très compliqué. Je vous dis ceci, pas parce que il faut absolument... Non, c'est simplement parce que la vie quotidienne a absolument besoin d'être surnaturalisée. Sinon, ça devient insupportable. Et au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, demain, vous commencez, allez, une fois dans la journée, revenir vers lui, se souvenir du Seigneur. Peut-être que beaucoup d'entre vous le font déjà, mais ceux qui ne le font pas commencent. Deuxième petit conseil, parlez à Dieu. Vous comprenez que la seule pensée risque de rester vague, incertaine. Et la pensée parlée gagne en netteté, en fermeté, en consistance. On peut exprimer sa prière par la parole. On peut parler à Dieu pour le louer de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Tel enfant parlant à son père. On peut aussi lui dire « Je veux ce que vous voulez ». Répétez ça souvent. « Je veux ce que vous voulez, mon Dieu ». Tous les jours, dans notre Père, on dit « Que votre volonté soit faite ». En réalité, soyons honnêtes, nous voulons toujours que le bon Dieu fasse ma volonté. Et si jamais il ne la fait pas, on se dit « Bon, ben je prie plus, ça n'a pas marché ». Quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, on se rend compte que finalement, ce pourquoi on avait tant prié, eh bien, heureusement que ça ne s'est pas réalisé tel quel, le bon Dieu me l'a donné différemment et c'est bien mieux. Mais souvent, il faut le recul du temps pour le comprendre. Alors, pour revenir à lui pendant la journée, je vous propose d'utiliser quelques bouées. Facilement, nous sommes submergés par les activités et les soucis. Et puis, le vagabondage cérébral. Nous vivons dans un monde de fonds sonores. D'ailleurs, vous entrez dans un magasin et vous avez tout de suite un fond sonore. Il paraît que ça favorise les achats. Mais on risque de vivre dans le fond sonore. Quelqu'un qui parle, ben, c'est un fond sonore. On ne l'écoute pas vraiment. On entend un fond. On peut lire aussi un fond livresque. Et on est superficiel. Alors, pour vous raccrocher au bon Dieu, utilisez les bouées. Ces bouées, ce sont la pratique d'une courte formule de prière, fréquemment répétée pour rejoindre Dieu. On est dans le temps de Noël. Eh bien, on pourrait dire « Seigneur Jésus, venez naître au-dedans de moi ». C'est ça la grâce du temps de Noël. Qu'il naisse au-dedans de moi, que je devienne une crèche vivante. Et c'est une grâce de naissance, et c'est magnifique de penser que mon existence de chrétien est une sorte de renaissance intérieure sans cesse renouvelée. À Pâques, je demanderai la résurrection intérieure. Donc vous voyez, vous répéteriez ça souvent dans la journée. Seigneur Jésus, venez naître au-dedans de moi. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce que nous répétons? Tout ce qui nous agace, tout ce qui est négatif, tout ce qui nous agace chez les autres, bien entendu. Spécialement les êtres que l'on voit tous les jours à table, par exemple, avec toutes les manies exaspérantes que l'on peut avoir à table. Alors les jeunes sont exaspérés par les aphorismes paternels ou par telle manière de tenir sa fourchette. Et on rumine. Alors si on revenait à des choses beaucoup plus intéressantes à ruminer, Seigneur Jésus, venez naître au-dedans de moi. Faites-le chaque fois que vous avez une pensée négative qui surgit à l'intérieur de vous. Cette courte formule de prière, ça peut devenir progressivement, pas tout de suite, une sorte de prière respiratoire. Ça ne vous prend pas de place dans l'agenda, ne vous inquiétez pas. Vous commencez à devenir une petite échelle, un pèlerin russe. Vous voyez, il répète toujours la même chose. Mais il faut commencer petit. Ou alors, vers vous, mon Dieu, j'élève mon âme. Mon âme a soif de vous, Seigneur. Je vous assure que si nous le faisions plus souvent, nous ferions une autre tête. Ça me rappelle cette petite histoire de parents d'une jeune fille qui a certains talents. C'est les parents qui me l'ont raconté. Elle aime bien réaliser des choses, elle a un certain sens artistique. Et alors un jour, elle a dit à ses parents, « Vous allez photographier les étapes de ce que je fais. » Bien sûr, les parents se sont exécutés. « Oui, ma chérie. » Et donc, on fait un petit diaporama. Enfin, on ne dit plus diaporama aujourd'hui. Tout passe dans le numérique. Et c'est vous dire à quel point je suis d'un autre siècle. Et alors, on lui montre le résultat du reportage. Elle dit, « Non, cette photo, pas bonne, pas bonne, pas bonne. Là, vous avez vu ma tête. » Et la mère lui a dit, « Mais ma chérie, c'est la tête que tu nous fais habituellement. » Comme elle a de l'humour, elle a bien ri. Bon, elle a dû faire quelques efforts. Donc, les plongées. Vous vous rappelez, vous voyez, c'est des images toutes simples. Les bouées. Faites aussi des plongées. C'est le conseil que donnait un simple petit frère du Carmel, le frère Laurent de la Résurrection, un humble frère carme du XVIIe siècle, qui était cuisinier de son couvent, et qui est devenu un conseiller spirituel très apprécié. Alors lui, il possédait un secret tout simple. À l'artisan de sa rue comme à la grande dame de la cour, il recommandait de plonger en soi-même très fréquemment au cours de la journée, durant quelques dixièmes de seconde, plonger en soi-même pour adorer la Sainte Trinité, présente au fond de l'âme. Ça, c'est une pratique capitale. Vous voyez, les bouées, les plongées. On rêve déjà d'été. Ça va arriver. Au plan spirituel, c'est un acte de foi. Au plan psychologique, ça vous conduit à une intériorisation progressive, devenir plus intérieur, c'est important, car nous vivons dans un monde qui soigne essentiellement l'extérieur. Et ça vous rend plus apte à percevoir les suggestions intérieures de l'Esprit-Saint. C'est important, pas seulement quand on a 16 ou 20 ans et qu'on réfléchit à sa vocation, bien sûr, là c'est capital parce qu'on va prendre les décisions qui vont faire pivoter toute une vie, les décisions de vocation. Vais-je partir à la Grange Chartreuse? Vais-je épouser un magnifique Saint-Cyrien, se dit la jeune fille. Mais aussi à toute étape de la vie. Il faut se dire, qu'est-ce que le bon Dieu attend de moi aujourd'hui? On pense que voilà, l'annonciation, c'est simplement à 18 ans. Mais c'est aussi tout au long d'une existence. Et ceux qui ont un peu plus d'années se rendent bien compte qu'à telle étape de la vie, eh bien, le bon Dieu m'a demandé ça. Et moi, j'étais agrippé à moi et je n'ai trouvé la solution que le jour où j'ai lâché prise. C'était une nouvelle annonciation. Il y a aussi des assomptions dans une existence. Vous sentez bien qu'il y a eu des caps de la vie où vous êtes un peu détaché de vous-même. Alors tout cela, ça nous semble vrai, ça nous semble beau, mais on se dit, il est bien gentil, c'est difficilement réalisable car je n'ai pas le temps. Alors si vous interrogez un fiancé, il sera tout surpris si vous lui demandez combien de fois, par jour, il pense à celle qu'il aime. Il vous répondra, mais sans cesse, pourquoi me poses-tu cette question bizarre? Alors, pour celui qui aime Dieu, pourquoi il n'en serait pas de même? Si nous ne parvenons pas à vivre l'union à Dieu à longueur de journée, est-ce que ce n'est pas parce que nous manquons de cet amour profond qui aspire à sa présence? C'est nous qui avons le cœur sec. C'est pas parce qu'on manque de temps. Celui qui aime, eh bien, peut s'entendre dire cette question par l'être aimé. Est-ce que tu as pensé à moi aujourd'hui? Il va répondre, mais oui, toute la journée. Et l'être aimé ne va pas lui dire, mais non, tu étais devant ton ordinateur, tu pensais à autre chose. Parce que même lorsque celui ou celle qui était devant l'ordinateur pensait à autre chose, il vivait en union avec l'être aimé. Ce n'était pas une question d'activité cérébrale, d'attention, de concentration. C'était une question d'élan intérieur. Et nous pouvons vivre l'union à Dieu même lorsque nous ne pensons pas à lui. Votre âme, voyez-la comme un petit empire, un royaume, au centre, la cité interdite, le monarque, c'est vous. Et puis il y a des provinces, ce sont vos facultés, vos passions, intelligence, toutes les facultés spirituelles, intelligence, volonté, tous les sens internes, tout ce qui fait votre être, jusqu'à la sensibilité la plus extérieure. Alors, ces passions qui sont toutes ces facultés spirituelles ou passionnelles qui sont vous, il faut les gouverner. Ce n'est pas toujours facile. Les harmoniser pour que tout aille dans le même sens. C'est le travail de celui qui gouverne. Mais vous savez que celui qui gouverne peut aussi gouverner par décret. Alors moi, je vous propose ce soir, pour votre petit empire intérieur, qu'est votre âme, votre personne tout entière, vous posez un décret. Désormais, tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, votre manière d'être, jusqu'au battement de votre cœur, à votre respiration, tout, vous décrétez que désormais, tout est en union au cœur de Jésus. Voilà, vous posez ce décret ce soir. Vous savez, il y a des gouvernements qui font de cette manière-là un décret. Comme ça, on n'a pas besoin de consulter tous les députés qui se disputent et tout ça. C'est bien plus facile. Faites ça. Et tant que vous n'avez pas révoqué le décret, ben il est valable. Et vous n'avez plus besoin de cérébraliser à vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, tout était en union à Jésus. Et vous renouvelez régulièrement ce décret. Alors, ça, c'est ce que j'appellerais un vivant amour de Dieu avec une prière vivante. Et vous remarquez que ce climat intérieur, il faut qu'il soit cultivé, sous peine de disparaître. Et n'oublions pas que quand nous sommes devant Dieu, nous sommes devant un être qui est à aimer. Alors n'hésitez pas à rejoindre régulièrement le fond de votre cœur où le Christ est présent. Il s'agit, parce que quand on prie, on se dit, vous savez, dans toutes les confessions qui commencent bien, qui sont bien construites par des chrétiens bien formés, c'est « j'ai des distractions dans ma prière, j'ai une prière qui n'est pas concentrée », ça c'est classique. Alors ne vous inquiétez pas si votre prière n'est pas concentrée. Lorsque vous allez rencontrer votre meilleur ami, l'être le plus cher, est-ce que vous êtes concentré? Pas du tout. Vous êtes détendu. Et qu'est-ce qui est important pour l'être aimé? C'est votre présence. Ce n'est pas que vous soyez concentré. D'ailleurs, si vous étiez concentré comme ça tout le temps, vous dire, mais tu sais, il faut que je sois concentré sur toi. Mais la personne vous dirait, mais non, mais détends-toi. Donc la prière n'est pas une affaire de concentration. Dites-vous bien que le temps que vous donnez chaque jour, et là-dessus, c'est vrai, il faut se battre et s'établir un petit règlement de vie. Ce n'est pas forcément le grand sommet mystique, ce n'est pas des moments où il se passe tous les jours des apparitions. C'est simplement du temps que vous lui donnez gratuitement, du temps même que vous grillez pour rien, pour lui, pas pour ce que ça vous apporte. Peut-être que dans votre entourage, dans votre famille, vous avez une vieille personne et certains jours vous traînez pour aller lui rendre visite parce que voilà, la vieillesse, tout ça, c'est pas facile, la maladie, enfin, toutes sortes de choses. Et puis, certains jours, vous vous dites, mais je vais aller voir cette personne, mais ça m'apporte rien. Bon, alors, comme vous êtes une personne de ce devoir, vous y allez. Mais qu'est-ce qui est important? C'est pas que ça vous apporte quelque chose. c'est que cette personne-là attend votre présence. Et si nous savions, nous sommes tous des chercheurs de Dieu, et peut-être certains des trouveurs, si nous savions avec quelle intensité le cœur de notre Seigneur nous recherche, attend notre présence, lui qui pourtant n'a besoin de rien dans la perfection de sa divinité, alors nous serions tous les jours au rendez-vous. On m'a raconté une histoire, c'est un journaliste qui m'a raconté cette histoire, un journaliste catholique, il rencontre un jour un de ses amis, un homme fort cultivé, une grande, grande culture, très brillant, mais pas catholique du tout, mais connaissant bien ce qu'est le catholicisme. Et il dit aux catholiques, croyez-vous que la messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix? Il dit, oui, bien sûr, le catéchisme l'enseigne, j'y crois. Mais vous croyez que sur l'autel, le Christ est présent? Vous croyez que dans les tabernacles, il est présent aussi? Il dit, oui, bien entendu, j'ai la foi. Et alors celui qui n'est pas catholique lui dit, mais alors, si vous y croyez, pourquoi n'y êtes-vous pas tous les jours? Pourquoi les tabernacles sont-ils si désertés? Et le catholique m'a dit, depuis, je vais aussi à la messe en semaine. Il m'a réveillé. Ça paraît fou aujourd'hui d'aller à la messe en semaine. Alors, dans une ville, c'est plus facile. À la campagne, où c'est souvent le désert spirituel, c'est plus difficile. Mais ne laissons pas passer l'occasion, car nous en avons des occasions de retrouver Jésus. Et vous voyez, ce que je veux vous faire sentir ce soir, c'est que votre vie intérieure n'est pas incompatible avec votre vie active. En regardant la vie de Jésus, vous serez frappé par ce constat d'un va-et-vient permanent au cours de sa vie publique entre la vie de prière, l'oraison et l'action de Jésus. Imaginez, après une nuit de prière dans la montagne, vous le voyez redescendre pour guérir et enseigner ceux qui viennent à lui. Et puis aussi, alors qu'il est en plein feu de l'action, vous le voyez échapper aux foules nombreuses qui l'assaillent et il se retire dans les solitudes pour prier. Donc, chez notre Seigneur Jésus-Christ, on observe que oraison et action, loin d'être deux réalités juxtaposées, s'appellent et se répondent l'une l'autre. Elles sont comme imbriquées. L'oraison oriente vers l'action et l'action féconde l'oraison. Et l'action relance vers l'oraison. Alors, au fur et à mesure qu'on progresse dans la prière, dans la connaissance de Dieu, il faut bien se dire que mais il va nous donner les grâces pour durer. Ce n'est pas facile de durer dans la prière. Le chapelet est un excellent moyen de durer. On se plaint que le chapelet est répétitif. Tout le monde vous dira ça, c'est répétitif le chapelet. Tu rabâches ton chapelet. Mais oui, justement, il faut revendiquer la répétitivité du chapelet, elle est excellente. Elle nous aide à tenir dans la durée, parce que souvent, au bout de 3 minutes, on se dit, qu'est-ce que je fais là? Il y a une nuit d'adoration ici, vous remplissez, allez, les 10 premières minutes. Au bout de 10 minutes, vous dites, tiens, il y a un cierge qui coule. Et puis, pendant les nuits d'oraison, d'adoration eucharistique, vous avez toujours un ronfleur. Et à ce moment-là, il y a un petit diablotin qui arrive et qui vous dit « Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Toi aussi, tu vas t'endormir. Ça te berce le ronflement. T'es fatigué, tu prierais mieux demain. Rentre vite. Tu as pris ton heure, oui, mais c'est pas grave. Regarde, il y a déjà des gens qui sont là, donc le Saint-Sacrement est gardé. Tu peux rentrer à la maison. Ne vous laissez surtout pas faire. Restez. Priez, il y a des jours où ça consiste à ne rien dire, simplement à demeurer. Vous demeurez là. Après la messe, vous vous dites, ben, je prends un petit moment avec le bon Dieu. Je ne veux pas partir comme ça sans lui dire au revoir. Quand vos amis viennent vous voir chez vous, ils ne se lèvent pas tout d'un coup, ils ne fichent pas le camp comme ça. Donc, ils prennent le temps de prendre congé. Parfois, les au revoir durent longtemps. Vous avez des spécialistes qui stagnent très longtemps sur le pas de la porte. Et il faut prendre son temps avec le bon Dieu. Alors, n'oublions pas dans la vie de prière l'avertissement de Jésus : sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que si la vie de notre âme est une affaire volontariste, alors si vous êtes d'un caractère de feu, ben vous tiendrez vos résolutions, mais dans un certain contentement de vous-même. Aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. J'ai fait mon oraison. Et je trouve que, quand même, je m'y suis bien tenu. Et toi ? Alors, on se compare aux autres. Ou alors, si on est un peu moins volontaire, on se décourage très vite parce qu'on a pris une résolution, mais elle a tenu 24 heures. Bien revenir à cette grande réalité, ce que Jésus nous dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien de valable pour le royaume de Dieu. Mais celui qui va vers Jésus dit avec saint Paul, « Je puis tout en celui qui me fortifie. » Je puis tout en celui qui me fortifie. Et cette vie intérieure change notre regard. On voit les choses autrement. Ce qui nous entoure, le monde, les événements, on perçoit la vie d'un autre œil. En un mot, celui qui prie a le cœur de Dieu dans son cœur. C'est ce que nous dit l'Écriture sainte. Et au milieu de nos existences, toujours bien chargées, n'oublions pas que nous avons à faire le point avec le bon Dieu. À rendre compte. Si dans votre vie professionnelle, vous avez de bons collaborateurs, il y a un signe pour les repérer. Est-ce qu'ils vous rendent compte ? Les gens qui ne rendent jamais compte, ce n'est pas bon signe. Alors moi, est-ce que je rends compte au bon Dieu ? Faire le point avec lui sur ce qui m'a été confié par lui. Sinon, je vais perdre le point de vue de Dieu sur mon existence. Alors très vite, je désespère, je me dessèche et je me fais un cuir de rhinocéros. Ça existe. Et il faut relire cette très belle page de l'Évangile qui nous montre les disciples revenant de tous les petits bourgs où le Christ les avait envoyés en mission, deux par deux. Et il lui faisait part, dans la joie, de tout ce qu'ils y avaient opéré. Alors, votre temps de prière quotidien consistera à rendre compte au maître de ce que vous avez fait, de ce qu'il vous a confié, et puis vous prenez des consignes pour repartir. Et n'oublions surtout pas ce besoin impérieux qu'éprouve tout amour vrai de retrouver le cœur à cœur avec l'être aimé. Et si nous sommes bel et bien dans la vie active, n'oublions pas non plus que l'action a comme ressort principal l'amour de Dieu. Mais n'oublions pas aussi que l'action use l'amour plus qu'elle ne le renouvelle. Et seule la rencontre avec Dieu peut ranimer, purifier, fortifier l'amour. Vous savez, dans la rue, on rencontre des tas de gens. La soutane, ça ouvre à des tas de rencontres intéressantes. Alors vous avez toujours le brave type qui vous dit, ah, vous savez, moi, mon père, j'ai la foi. Oui, parce que la foi résiste, même s'il ne met jamais les pieds à l'église, la foi quand même résiste assez bien aux mauvais traitements. L'amour, la charité, le lien vivant avec le bon Dieu, il n'en va pas de même, ça s'entretient. Voilà pourquoi, la formule n'est pas de moi, il faut vivre sa prière et prier sa vie. Ne pensez pas que votre prière personnelle sera une sorte de petit boudoir, un individualisme chrétien. Pas du tout. Jésus, afin de nous faire saisir son étroite union avec les siens, recourt à une très belle expression, très forte. Il dit « vous en moi et moi en vous ». Si vous avez un ami qui vous dit ça, vous dites, bon ben, cette amitié-là, c'est du béton. Vous en moi, moi en vous. Le chrétien est donc dans le Christ et le Christ est dans le chrétien. S'il vous arrive certains jours d'être un peu triste, un peu las de tout, vous dites mais je fais toujours la même chose. Vous savez, ça arrive, des crises de vertige, une mère de famille de 7 enfants qui se dit tout d'un coup j'aurais mieux fait d'être carmélite. Ça arrive. Le père de famille qui fait sa crise d'ado à 45 ans, c'est pas facile. Alors si ça vous arrive, vous vous dites mais peut-être ai-je perdu le contact vivant avec cette présence intérieure du Christ en moi et je ne m'appuie plus assez sur cette présence. Alors j'y reviens vite. Ouf, ça y est, ça va mieux, je commence à respirer. Mais ça peut être un vrai combat spirituel. Et il faut y revenir tout le temps. Jésus est présent en moi. La Sainte Trinité, par la grâce sanctifiante, c'est ça quand même qu'on a reçu le jour de notre baptême, c'est pas rien, est présente au-dedans de moi. Vous savez, il y avait un prince vénitien très célèbre dans les belles années parisiennes, Lanza del Vasto, qui faisait des conférences. Alors le tout Paris se précipitait pour écouter parce qu'il s'était intéressé aux spiritualités orientales et toutes les dames du tout Paris de l'époque étaient, se pâmaient en écoutant ces conférences passionnantes. Il leur dit, mais vous savez ce que je vous raconte, ce n'est rien d'autre que l'inhabitation de Dieu dans l'âme chrétienne. Mais l'Église vous l'a toujours enseigné. Pourquoi est-ce que c'est nouveau pour vous? Cette présence, cette habitation de la grâce dans mon âme de misère. Vous en moi et moi en vous. Ça aussi, c'est une petite formule à ruminer. Alors il y a moi en lui. C'est en lui que je vis depuis mon baptême. C'est en lui que je prie. Le Christ est mon lieu de prière. Et il faut bien savoir que hors du Christ, il n'y a pas de prière authentique. Voilà pourquoi à la messe, toutes les oraisons finissent « Père Dominum », etc. Hors du Christ, pas de prière authentique. Alors, on se dit, oui, tout ça c'est bien beau, mais aussitôt s'impose une évidence, tous les chrétiens comme moi sont dans le Christ. Donc, prier dans le Christ, c'est nécessairement rejoindre en lui la foule immense de tous les baptisés, de toutes les âmes, celle de la terre, celle du ciel, celle du purgatoire. Voilà avec qui je prie. Et ainsi que je le veuille ou non, je prie avec cette foule et au milieu de cette foule. Et cette foule réunie dans le Christ a un nom, ça s'appelle l'Église. L'Église est donc mon lieu de prière. Saint Paul, pour nous initier au mystère de l'Église, recourt à la comparaison du corps humain. Nous ne sommes pas les uns et les autres juxtaposés au sein de l'Église, mais nous sommes étroitement reliés, ainsi que les membres d'un corps. Et dans le corps du Christ, j'ai besoin du Christ tête du corps, mais aussi de tous les autres membres, et pour vivre, et pour agir, et pour prier. Et la petite formule qui est restée célèbre, une âme qui s'élève, élève le monde, une âme qui s'abaisse, abaisse le monde, elle me pousse à faire un bilan, petit bilan personnel. Chacun, par charité, gardera la réponse pour lui. Et là, nous comprenons mieux qu'il y a une dépendance vitale à l'égard des autres membres du corps. Des richesses spirituelles affluent en moi, comme les trésors de Madian et d'Épiphan. Demain, c'est l'Épiphanie. Donc, il y a des trésors spirituels qui affluent, et en grande abondance. Les âmes baptisées me communiquent leurs trésors spirituels. On pense tout de suite à un malade qui offre ses souffrances en les unissant à celles du Christ, aux contemplatifs qui vont se lever cette nuit pour chanter l'office divin, au pape qui récite son bréviaire dans les jardins du Vatican, à cette personne qui se penche sur un malheureux, à cet agonisant qui va donner sa vie pour la conversion des pécheurs. Toutes ces richesses, j'en bénéficie. Et elles viennent à moi comme des torrents qui se jettent dans la rivière. Alors, lorsque je prie, je n'oublie pas, comme serré invisiblement autour de moi, les âmes souffrantes du purgatoire. Je peux les aider. Le curé d'Ars a une belle formule, il dit « Les âmes du purgatoire ne peuvent rien pour elles. Elles peuvent beaucoup pour leurs bienfaiteurs. » Voilà ce que dit le curé d'Ars. Il y a aussi tous ceux du ciel qui voient Dieu face à face et qui sans cesse intercèdent pour nous. Vous voyez, finalement, dans l'existence, on n'est jamais seul. Pensez aussi à tous les gens qui vous ont marqué dans votre existence. Tous les gens qui ont eu une bonne influence sur votre vie chrétienne. Tout cela, c'est très mystérieux. N'oublions pas aussi Notre-Dame, que Dieu s'associe dans toute son action de salut et de sanctification. Elle est ma mère, elle me transmet la vie. C'est très mystérieux de penser que chacun de nous a sa place dans ce grand corps qu'est l'Église, de même que la main, le cœur, le poumon ont chacun un rôle à tenir au bénéfice du corps tout entier. Toute âme qui s'élève est l'âme du monde. Alors ne nous y trompons pas, le jour où nous ne brûlons plus d'amour, il y en a d'autres qui meurent de froid. Donc tous les autres ont besoin de moi. Je porte la communion à une toute petite dame, très âgée, très recroquevillée par les ans, qui vit dans un quartier de la banlieue parisienne où vous vous demandez si on est encore en France. Et alors, elle est d'une grande piété, mais elle ne peut plus sortir de chez elle. Alors, je lui porte la communion. Alors, elle est touchante parce qu'elle a un côté très naïf. Et quand je lui donne la communion, son habitude, c'est de chanter un cantique. Alors, elle met ses petites mains toutes décharnées comme ça. Et elle chante un cantique avec une voix évidemment complètement aigrelette de son âge et des cantiques complètement, qu'on dirait aujourd'hui, has-been. Eh bien, je vous assure que c'est elle qui porte bien plus le monde que nous qui nous prenons au sérieux. Ce sont ces moyens-là que notre Seigneur choisit, c'est très mystérieux. Alors n'oublions pas que nous sommes dans ce grand courant de grâce et lorsque nous commençons à prier, nous nous situons au milieu de cette grande assemblée et même si ma prière est très pauvre, c'est pas grave, arrêtons de nous regarder priant. Parce que le bon Dieu prend, vous savez les hommes ont toujours rêvé de transformer le plomb en or, ça n'a jamais marché, alors lui il sait le faire. Donc il prend le plomb de notre âme et il le transforme en or de sa grâce. Cette petite prière misérable qui est ma prière quotidienne, Dieu a prévu de la transmettre à tel de mes frères, dans tel de ses bienfaits. Et l'Église est toute vibrante, toute vivante, toute frémissante de cette prière qui n'est plus mienne, mais qui est celle du Christ. Et la vie de raison a donc cette dimension profonde. On pourrait illustrer la vie de raison, vous savez, la meilleure, me semble-t-il, une des meilleures définitions de la vie de raison, de ce silence quotidien qu'on passe auprès du bon Dieu, dans sa chambre, ou même devant son clavier d'ordinateur, en prenant un texte à méditer, on peut faire raison, ou en venant ici à l'église. La vie de raison, la meilleure définition qu'on peut en donner, c'est celle que donnait Madame Akari, qui disait « c'est un simple regard sur Dieu ». Ou l'histoire du curé d'Ars et du paysan dans l'église d'Ars, le curé d'Ars le voit, et il le voit encore, il dit « qu'est-ce que vous faites là ? Tout le monde connaît l'histoire ». Et il lui dit un peu dans son jargon local « je l'avise, il m'avise », c'est-à-dire « je le regarde, il me regarde ». C'est ça la vie de raison. Oui, c'est pas bien sorcier. On s'imagine que c'est réservé aux grands mystiques, mais il suffit de rester aux côtés du bon Dieu, c'est tout. Et donc la vie de raison, elle a cette dimension profonde qu'on pourrait illustrer un peu par cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit celui-là qui veille modestement quelques moutons sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, se découvre plus qu'un serviteur, il est une sentinelle et chaque sentinelle est responsable de tout l'Empire. Donc vous voyez, vous allez profiter de ce début d'année pour avoir des objectifs spirituels. Si vous n'en avez pas, vous allez stagner. Et il faut avoir des ambitions. Alors les ambitions terrestres sont toujours ambiguës. Si dans votre entourage, il y a quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui a des dents longues comme ça, qui est prêt à tuer tout le monde pour arriver à ses fins, c'est pas très net l'ambition. Alors les ambitions surnaturelles sont beaucoup plus limpides. Des ambitions, des objectifs pour la vie de l'âme. Et vous allez profiter de ce début d'année pour vous dire, attention, il faut que je me réveille. M'enraciner dans la paix de Jésus. Me réveiller sur mon état de pécheur. Me réveiller aussi, avoir une conscience plus aiguë, plus affinée de la très grande tendresse du cœur de Jésus. Et vous remarquez que si vous commencez à faire reposer votre existence sur ces grandes réalités, la paix de Jésus, la tendresse de son cœur, ma misère de pécheur, tout de suite votre âme se remplit d'une joie profonde et calme. Et vous voyez ici que la vie intérieure en général et la vie de raison en particulier, ce n'est pas quelque chose que vous faites, que vous fabriquez avec votre cerveau puissant. C'est quelque chose que vous recevez. C'est un don de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous fait don de la prière quand nous prions. Et si votre temps de prière quotidien, mais vous passez votre temps à batailler, ne vous inquiétez pas, restez là. Ce sera quand même un temps d'intimité avec Jésus. Il y aura des jours où la prière devient très 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 difficile. Vous dites, moi je suis fatigué, ça ne m'apporte rien. Puis quand je prie le bon Dieu, il ne m'écoute pas. Ça va être le moment de croire fermement à la persévérance. Vous savez, je crois que si le bon Dieu avait choisi comme modèle de la prière un animal, il aurait choisi le chien. Oui, il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que le chien est persévérant. La persévérance. Je ne vais pas chercher des grands états mystiques, je n'ai pas besoin de faire un soupir entre chaque phrase de l'Ave Maria de mon chapelet, ce n'est pas la peine, parce que ça c'est une recherche souvent, on se recherche, on se dit il faut que je sois très mystique. Non, il faut simplement que je sois là, parce que Jésus est là. Vous savez, un peu comme cette personne, vous êtes quelqu'un de très actif, etc., vous êtes toujours sur la brèche, et au bout d'un moment, cette personne vous dit tu n'aurais pas 5 minutes où tu pourrais t'arrêter rien que pour moi. Donc il faut entendre cet appel intérieur de Jésus qui nous le dit, tu n'aurais pas 5 minutes pour t'arrêter rien que pour moi. Importance de la persévérance, retenez l'image du chien. Persévérer jusqu'à ce que l'Esprit Saint s'empare de mon cœur et prie en moi. Certains jours, ça ne va pas tout seul, c'est vrai. D'autres fois, ça peut être aussi la sécheresse. Ou bien, on se dit, aujourd'hui, c'était merveilleux, je me suis entretenu familièrement avec notre Seigneur. Ou alors, c'est totalement vide. Si vous avez l'impression que votre prière est vide, rappelez-vous cette recommandation que Saint François de Sales donnait à une personne qu'il dirigeait et qui se désolait de ne pas savoir comment prier. Voilà ce qu'il dit. Vous me dites que vous ne faites rien en prière, mais que voulez-vous y faire sinon ce que vous faites, c'est-à-dire présenter votre misère à Dieu. Quand les mendiants nous exposent leur misère, c'est là le meilleur appel qu'ils puissent nous faire. Alors, dit saint François de Sales, demeurer devant Dieu comme une statue. Donc j'accepte ma prière telle qu'elle est, et je demande dans la paix, et je demeure dans la paix, assuré qu'elle est une louange à Dieu, et que par ma misérable petite prière, eh bien, ma relation à lui s'approfondit. Et là, vous voyez que votre vie de raison, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une action forcée. On a souvent cette vision un peu kantienne du devoir d'État. On se dit, mon devoir, c'est ce que je dois faire. Bien sûr. Mais pas d'une manière forcée, d'une manière aimante. C'est bien différent. Alors, mon oraison quotidienne ne sera pas non plus une action forcée, c'est mon rendez-vous d'amour avec lui. C'est plus une poursuite, c'est plus une recherche. C'est une certitude de sa présence. Vous pouvez faire oraison dans votre chambre, la porte close, mais dans une église, n'importe où, sous un ciel plein d'étoiles, là-haut sur la montagne, comme faisait Jésus. On peut faire oraison en disant des choses toutes simples. Mon Dieu, faites-moi connaître votre volonté, faites que je l'aime. On peut commencer à faire oraison en se mettant à genoux quelques instants et en disant simplement « Seigneur, je suis là pour vous ». C'est tout. Si votre quart d'heure d'oraison quotidien, vous le remplissez comme ça, en disant « Mon Dieu, je suis là pour vous », ben ça va. Vous n'aurez pas perdu votre temps. Mais même si mon moment de prière devient difficile, que j'ai l'impression d'avoir des fourmis partout, que j'ai envie de partir, je ne bougerai pas d'ici. Et je dis à Jésus, faites de ce temps d'oraison ce que vous en voulez. Comprenons bien que c'est dans cette intériorité que Dieu devient mon Dieu. Que le Seigneur de l'univers devient mon Seigneur. Rappelez-vous cette belle phrase de saint Thomas l'incrédule qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Là aussi, on passerait notre temps d'oraison à ne dire que ça, « Mon Seigneur et mon Dieu ». À l'oraison, Dieu est là, c'est une personne vivante qui m'attend et lorsque je suis fidèle à ce rendez-vous, je rencontre quelqu'un qui m'aime. La plupart du temps, soyons honnêtes, on rencontre quelqu'un qui a besoin de moi. Mais la rencontre, là, elle est gratuite. C'est pas par intérêt qu'il m'attend. C'est par amour. Enfin, et il est grand temps que je vous laisse repartir, pendant ce rendez-vous, il n'y a rien qui ressemble à un duo sentimental. Même si vous avez un cœur de jeune fille très primevère, ça peut arriver à n'importe qui. Parce que justement, prier n'est pas sentir. Et vous pouvez très bien prier sans rien ressentir. Et la plupart du temps, soyons honnêtes, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand on recherche le ressenti, ben on se recherche soi, mais on ne recherche plus Dieu. Et aujourd'hui, c'est très fréquent. On veut des grands rassemblements de jeunes avec du grand boum-boum mystique. Mais aller à la messe tous les dimanches, se lever de son lit douillet et partir à l'église, comprenez, on se dit, ce qui fait que vous avez des jeunes gens, des jeunes filles très fervents, qui préfèrent l'adoration du Saint-Sacrement, parce que là c'est un temps fort qu'on vit ensemble. Mais oui, mais la vie chrétienne, c'est pas toujours ça. Ils seront d'accord pour faire... une grande marche, un grand pèlerinage à forte densité mystique. Mais oui, mais après, la vie chrétienne, c'est tous les jours et souvent, c'est tout seul et on bataille et on ne ressent rien. Et d'ailleurs, Jésus a dit au même saint Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », c'est-à-dire sans avoir senti. Vous savez, ça devait quand même être impressionnant de mettre la main dans la plaie du côté de Jésus. Il faut être quand même bien accroché. Saint Thomas l'a fait, dans les trous des mains. Souvent, quand vous voyez une plaie, vous n'avez pas trop envie de vous approcher. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors ces heureux, c'est nous. Et si nous ne ressentons rien, tant mieux. Au moins, on ne se recherche pas dans le ressenti et dans le palpitant. Nous ne sommes pas dans l'ordre du sentimental, même s'il peut y avoir de beaux sentiments. Ce n'est pas essentiel. Cette vie de prière n'est pas non plus une introspection. Elle vous aide au contraire à sortir de vous. C'est très mystérieux, hein ? Si nous étions de ces spiritualités orientales, si à la mode dans certains milieux, on cherche à entrer en soi. Et on y reste. Alors la prière fait sortir de soi pour aller à Dieu. Et mystérieusement, Dieu est en nous. Il n'est pas l'interlocuteur qui parle du dehors, mais il est aussi cet élan intérieur qui est au-dedans, qui suscite, qui soutient et qui entraîne la prière. C'est ça qui réside dans la profondeur de notre âme. C'est lui qui est notre maître à prier. Voilà pourquoi c'est lui qui nous enseigne notre Père. Voilà pourquoi à la messe, dans la liturgie romaine, le prêtre chante le pater seul à l'autel, prière sacerdotale par excellence, comme le Christ l'a chanté seul sur la montagne, et l'autel est un lieu élevé, et il dit le pater de cette manière-là, dans la personne du Christ. C'est lui qui est notre maître à prier, c'est lui qui nous apprend à prier. Et ça, c'est l'œuvre particulière de l'Esprit-Saint qui fait surgir en nous la prière comme un cri filial vers Dieu qui est Père. Et vous verrez au fur et à mesure, en vous accrochant, en bataillant tous les jours, combien la fidélité au chapelet quotidien, à l'oraison, allez, soyons fous, à au moins une messe en semaine. Parce que la messe dominicale, c'est votre ration de survie. La messe en semaine, c'est un surcroît d'intimité avec Jésus. Eh bien, tout cela, c'est un moyen privilégié pour devenir souple, docile, afin que l'Esprit-Saint habite en nous, nous anime et nous meuve à la fois toujours plus fortement et délicatement, ainsi soit-il.